Bonjour à ma précieuse communauté de l'art d'être humain. Je vous espère en forme en ce début août. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pris l'habitude de vous partager des extraits audio de mon journal d'écriture. Ça ne fait pas partie de la saison régulière, mais c'est des textes créatifs, poétiques que j'écris. Pour moi-même, surtout, une espèce d'hygiène, de nettoyage intérieur. Je vous en ai partagé quelques-uns déjà. Vous irez voir sur votre plateforme favorite audio, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et j'en ai un à vous partager ce matin que j'ai écrit il y a 2 jours. Il est déposé sur papier, pas tout à fait terminé, mais j'avais envie de vous le déposer. J'arrive de prendre une marche dans ma forêt, de me balader sur mon lac et tiens, c'est monté de vous en faire la lecture. Et d'abord, je vais vous le mettre en contexte. Il y a quelques semaines, mon cou a cessé de vouloir porter ma tête, littéralement, un gros torticolis. Et je vous expliquerai dans un autre balado ce qui m'a mené là, parce que, il y a des événements dans les derniers mois qui m'ont amené, je dirais, une grande fatigue physique, mais ça fera l'objet d'un autre épisode, quand je serai prête à vous raconter ça. Donc, littéralement, mon cou a cessé de vouloir porter ma tête, un torticolis, impossible de me tenir debout, impossible de tenir tout court. Alors, ma tête, ou plutôt le locataire qui habite ce coloc bourbillard là, qu'on appelle l'ego, celui qui veut tout comprendre et tout savoir, il était vexé, frustré, là, il y avait des trucs à faire, des deadlines, des projets. C'était pas un bon moment pour une panne de système. Alors, il a sorti ses outils favoris, chercher un sens à tout, trouver une solution, mettre des mots, organiser, optimiser, résoudre. Mais mon corps, ce vieux sage, avait déjà mis en place une stratégie, je dirais, une conspiration entre lui et mon ego. La fatigue qui m'affligeait n'était pas la version douce, c'est celle qu'on règle avec une sieste ou une tisane au gingembre. Non, c'était une fatigue qui habite les os. Celle qui se présente en messagère, tu es allé assez loin dans cette direction, essaie autre chose. Alors j'ai compris, mais assez lentement comme toujours, qu'il me fallait ne rien faire, ou plutôt cesser de faire. Mais même faire du rien, je n'y arrivais pas. Alors j'ai fait le seul mouvement encore possible, je me suis allongée par terre. Pas vraiment pour me reposer, mais pour me rendre. M'abandonner. Et c'est là que cette phrase m'est apparue. Que de choses à faire pour apprendre à ne rien faire. Que de choses à faire pour apprendre à être. Des tonnes de choses à faire pour se déposer. Parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on a tous reçu la même prescription. Méditation, breathwork, yoga, marche consciente, une série Netflix, mais pas trop longue, pas trop compliquée, écrire dans un carnet de gratitude, danser, faire dans des cérémonies de cacao, avaler du jus de betterave sur fond de djembé. Bref, je m'amuse un peu, mais c'est les choses à faire pour apprendre à ne rien faire. Et dans cette fatigue viscérale, je ne pouvais plus absolument rien faire. Même pas une respiration profonde, même pas m'ouvrir à ce qui est. Et là, étendu, le sol m'a tenu sans effort, sans exigence, et j'ai senti le soutien. Pas celui qu'on demande, mais celui qu'on oublie, celui qu'on reçoit quand on n'a plus rien à donner. Parce qu'il arrive un moment où l'effort ne mène plus à rien d'utile. On continue à faire comme on rame à contre-courant sur une mer qui ne mène nulle part. On fait encore. Pour guérir, comprendre, devenir, on applique des rituels pour ralentir, des méthodes pour être, on médite pour être en paix, on respire pour retrouver son souffle, on marche pour enfin arriver quelque part en soi. Alors bien sûr, ça peut peut-être sembler contre-intuitif parce que je travaille dans le monde du développement humain, mais la vie ne veut pas tout ça de nous. Elle ne demande ni dépassement, ni guérison, ni évolution. Elle ne cherche pas notre version 2.0, notre moi post-trauma bien intégré. Elle veut juste notre présence. Elle nous invite tout doucement à respirer, à ressentir, à porter des questions plutôt qu'accumuler des réponses. Et parfois, la vie, elle envoie la fatigue, la vraie, celle là, qui habite les os, comme je vous disais, là. Et le corps se met à parler le langage du seuil, soit la migraine, la lassitude, l'épuisement, la saturation, le vide. Pas pour nous punir, pour nous enseigner l'arrêt. Et elle nous dit, tu es allé assez loin dans cette direction. Essaie l'immobilité, essaie la profondeur. Descends dans l'espace où rien n'est requis. Et c'est là que ce poème est né, dans une immobilité imposée, un effondrement involontaire. L'espace du dessous, ou j'aurais pu l'appeler aussi la descente. Les épaules portent des mondes jamais choisis. Tu crois t'asseoir, mais ton corps s'effondre. Il sait. La descente commence. Pas une chute, une lente dissolution de tout ce qui prétendait tenir. Tu entres dans le vide entre deux respirations. Un espace sans attente, sans exigence, un abandon. Un oui silencieux à ce qui est là quand on ne force plus rien. Tu descends dans une conversation sans mots où même l'introspection fait trop de bruit. Tu descends dans une prière pas adressée, pas prononcée, juste reçue. Vers ce rien, l'interstice entre les bûches où naît la flamme, le vide porteur, celui que l'artiste honore, que le chêne comprend, le silence entre les étoiles où l'univers prend forme. Tu descends encore jusqu'à l'espace du dessous, où l'âme revient. Pas comme une révélation, mais comme une présence ancienne, inoubliable même dans l'oubli. Et peut-être tu te souviens enfin que l'être n'a jamais eu besoin d'être mérité, que la vie ne voulait pas ta transformation, elle voulait juste ton attention. Et peut-être aussi tu te rappelles que tu étais déjà soutenu, tu avais juste oublié. C'est l'espace du dessous, où rien n'est requis. Bienvenue chez toi.